On va passer au dernier exposé de Catherine Koenig-Pralon sur Karl von Prantl et l'histoire de la logique occidentale. Catherine a beaucoup travaillé sur des questions non seulement de logique médiévale, de philosophie médiévale, mais aussi d'historiographie et sous toutes ses formes, en particulier sur l'institutionnalisation des disciplines philosophiques en général en Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Donc on reste dans une chronologie qui avance vers l'époque moderne.
Merci Irène. Effectivement, je vais aller encore plus avant dans l'histoire, mais ce qui va permettre un retour au Moyen-Âge, et assez rapide comme vous le verrez. Dans A History of Formal Logic, un ouvrage paru en allemand en 1956, puis dans sa version anglaise en 1961, le dominicain Józef Maria Boschenski, un dominicain polonais, se présente comme le premier historien de la logique qui ait respecté son cahier des charges. L'ouvrage retrace les trajectoires historiques de la logique proprement dite, c'est-à-dire, selon Boschenski, de la logique formelle. Pour la tradition occidentale, cette histoire de la logique a des prémices pré-platoniciennes. Elle va jusqu'à Frege, Russell et Peano, en passant par Aristote, les stoïciens et la scolastique. Elle connaît aussi d'importants développements en Inde, auxquels Boschenski consacre la deuxième partie de sa vaste enquête. Ces reconstructions sont précédées par une partie méthodologique qui manifeste l'habitus combattant du frère Boschenski, alors professeur d'histoire de la philosophie à l'université de Fribourg en Suisse. Après avoir évoqué les tentatives humanistes, en particulier celles de Pierre Ramu et de Bartholomé Kekermann, Boschenski nie que la modernité, du XVIIe au XIXe siècle inclus, ait produit une seule histoire de la logique digne de ce nom. Les historiens de la philosophie moderne auraient en effet confondu la logique avec la psychologie, la théorie de la connaissance et même l'ontologie. On en a eu toute l'histoire cet après-midi. Dans cette condamnation massive, un nom, ou plutôt un coupable, occupe une place prééminente. Il s'agit de Karl Prantl, pourtant décrit par Boschenski comme « the first to write a comprehensive history of Western logic ». Le cas de Prantl, qui fut professeur de philologie classique, puis de philosophie à l'université de Munich au milieu du XIXe siècle, est particulièrement dramatique aux yeux de Boschenski. Prantl aurait en effet consacré sa vie entière à l'écriture d'une histoire de la logique, les quelques 2000 pages de la Geschichte der Logik im Abendland, mais il aurait complètement manqué son objet, et cela sous l'influence de trois préjugés modernes. Alors, premièrement, Prantl aurait méprisé le formalisme, c'est sa faute la plus grave. Pour cette raison, il aurait sous-estimé, en second lieu, la logique stoïcienne, et il aurait dénigré la logique scolastique. Alors la critique peut paraître dure, si l'on tient compte des presque 100 pages consacrées par Prantl à la logique stoïcienne et des deux volumes entiers consacrés à la scolastique. Enfin, troisième préjugé dont aurait été victime Prantl selon Boschenski, Prantl a partagé un préjugé de l'époque, en particulier un préjugé de l'école historique allemande, « A strange belief in the linear development of every science », un préjugé sur lequel je reviendrai très bientôt. Au milieu du XIXe siècle, lorsque Prantl publie les premiers résultats d'un travail qu'il veut pionnier, deux débats forment en Allemagne le background de ses réflexions. Alors, on est dans un contexte très différent de celui qui a été évoqué tout à l'heure, vous le verrez. Le premier débat est relatif à la définition de la logique. Aux deux extrémités du spectre se situe d'une part la logique spéculative ou la logique métaphysique de Hegel, de l'autre côté la logique formelle, initiée par Kant, et la logique mathématique représentée en Allemagne par Moritz Wilhelm Drobisch, en Angleterre par George Boole. Et l'école historique à laquelle va s'affilier Prantl défend une sorte de voie alternative, une sorte de logique naturelle, alors qui n'a rien à voir avec la logique de Grise au XXe siècle, mais une sorte de logique naturelle qui se fonde sur l'analyse du langage envisagé comme configuration de la pensée et forme du raisonnement. Le deuxième débat concerne la possibilité même d'écrire une histoire de la logique, en d'autres mots, l'historicité de la logique. Alors, comme vous le savez, dans la préface de la seconde édition de la Critique de la raison pure, Kant a en effet affirmé que la logique est une science car, je le cite, « depuis Aristote, elle n'a pas eu besoin de faire un pas en arrière et jusqu'ici, elle n'a pas pu faire un seul pas en avant et ainsi, selon toute apparence, elle semble close et achevée. » Fin de citation. Lorsque les modernes ont pensé développer la logique, selon Kant, ils n'ont fait que d'y greffer des morceaux de psychologie, de métaphysique ou d'anthropologie. Partisans d'un formalisme sans histoire, contrairement au formalisme de Boschensky, qui a une forme d'histoire, Kant aurait ainsi rendu caduque toute tentative d'histoire de la logique, avant de proposer ici une lecture parmi mille autres possibles de la logique, de l'histoire de la logique en Occident de Printel. Je situerai donc Printel brièvement dans le contexte de ces deux débats. Lorsque Boschensky critique le préjugé moderne du développement linéaire de toute science, il s'oppose en réalité à l'idée selon laquelle l'histoire d'une science en modifie la définition, les contenus et les critères. En d'autres mots, Boschensky reprochait à Printel son adhésion à l'école historique allemande, pour laquelle la science ou les savoirs en général ne sont rien de plus que des produits de l'esprit humain et ont donc une nature essentiellement culturelle et socio-historique. Pour Boschensky, la logique formelle n'est pas variable dans ce qui fait sa scientificité ou sa validité universelle. Elle apparaît seulement dans l'histoire, ici ou là, sous différentes formes. Au récit génétique ou linéaire qui historicise son objet, Boschensky préfère donc les présentations synoptiques, doxographiques, anhistoriques et par juxtaposition d'un Pierre Ramu, par exemple. Quant à Printel, il a bien tenté une exposition unitaire, un récit linéaire des transformations de la logique, de son objet et de ses critères, et il pensait bien que ces reconfigurations étaient des processus constitutifs des objets eux-mêmes et des critères mêmes de la logique. Il s'opposait ainsi à Kant. Pour Printel et pour l'école historique en général, la logique a en effet une histoire, car précisément, en tant que science, elle est un produit de l'esprit humain. Si Printel a écrit une histoire linéaire de la logique, il n'a cependant pas souscrit au schéma progressiste hérité des Lumières. Son récit présente bien au contraire l'histoire d'un désastre et de multiples fourvoiements, les destinées d'une science qui, depuis le haut Moyen-Âge, n'a cessé de décliner en Occident. À tel point que Boschensky affirme, non sans malice et non sans ironie, que le but réel de Printel était de montrer que Kant avait raison, c'est-à-dire que la logique n'a pas d'histoire, car tout ce qui vient après Aristote n'est en réalité qu'une corruption de la pensée d'Aristote. Alors nous abordons bientôt les véritables motivations de Printel en historien de la logique désabusé, lorsque nous parlerons de son histoire de la logique en Occident. Auparavant, il importe de situer Printel dans le second débat que j'ai évoqué, la question de la définition de la logique, ce qui permettra aussi de mieux comprendre la détestation de Boschensky, pour qui logique est synonyme de logique formelle. En 1849, alors qu'il recueille des matériaux pour sa future histoire de la logique, Printel publie un petit essai sur la signification de la logique du point de vue actuel de la philosophie. Il y précise sa position sur un sujet qui l'intéressera d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, puisque en 1886, 2 ans avant sa mort, il dédiera encore une enquête à la logique mathématique. L'essai de 1849 est quant à lui un manifeste pour une logique du raisonnement, qualifiée aussi de logique linguistique, eine sprachliche Logik. Cette science n'est ni purement formelle, comme la logique de Kant, ni absolument réelle, comme la logique métaphysique de Hegel. Cette science étudie des formes linguistiques qui sont toujours les formes de contenu sémantique. Et pour cette logique, dont le premier concepteur est selon Printel Aristote, l'analyse logico-linguistique du jugement est primordiale. Selon Printel, le langage configure en effet la pensée. La langue jouit donc toujours d'une priorité par rapport au raisonnement. Autrement dit, je cite Printel, « la langue est la synthèse que la logique en tant que science de la pensée humaine, doit développer de manière dialectique. Lorsque Prandtl parle de langue, il pense toujours à une langue naturelle, c'est-à-dire à la langue d'un peuple. Je crois qu'il y a un vrai tournant culturaliste, linguistique, qui va en sens contraire du tournant naturaliste qui a été décrit tout à l'heure. Dans une note, il prend en effet soin de démarquer sa logique, c'est-à-dire sa dialectique qui procède de la langue, d'une part de la recherche d'une langue originaire par les linguistes, mais d'autre part, et surtout, de l'invention d'une langue artificielle ou formelle, comme celle que recherchait, par exemple, Leibniz. C'est avec Wilhelm von Humboldt qu'il travaille, et c'est avec Wilhelm von Humboldt qu'il définit la langue, die Sprache, comme énonciation, sprechen, parole toujours sensible, muable, individuelle et sociale à la fois. Prandtl inscrit ainsi la logique elle-même dans un contexte ethno-linguistique, affirmant que les langues, c'est-à-dire les peuples, savent, et la langue, c'est-à-dire l'humanité, sait. C'est pourquoi la logique a par définition un caractère historique et culturel. En 1852, Prandtl définit son approche plus précisément comme historicisme et anthropologisme. Alors, la position combattue par Prandtl est le formalisme de Kant. La désastreuse histoire du formalisme débute, selon lui, avec les premières réceptions antiques de la syllogistique aristotélicienne. Elle passe par le nominalisme du XIVe siècle, puis trouve sa dernière expression dans la sclérose kantienne. Selon Prandtl, cette tradition s'est fourvoyée car elle présente l'illusion d'une science qui pourrait faire abstraction de tout contenu pour ne conserver finalement que les formes pures ou abstraites de la pensée. Alors on verra, la pureté chez Prandtl est toujours une illusion. À l'opposé de Kant, mais coupable du même penchant pour l'abstraction, Hegel a réduit toute science à son propre système philosophique. Hegel a conçu la logique comme la science de l'idée absolue et il a ainsi confondu la pensée avec la réalité elle-même. Donc, contre l'apriorisme conscient et contre l'absolutisme hegelien, Prandtl monopolise maintenant diverses entreprises dont le point commun est un fondement pragmatique, à l'instar de la philosophie du langage d'Otto Friedrich Gruppe. Parmi les défenseurs d'une logique qui analyse les formes linguistiques des savoirs réels, Prandtl attribue pourtant la première place à Friedrich Adolf Trendelenburg, c'est-à-dire à cet historien de la philosophie qui, à Berlin, consacrait sa vie à la promotion de la philosophie d'Aristote. Trendelenburg était le défenseur d'une logique réelle à laquelle Prandtl pouvait adhérer, une logique qui unissait la forme au contenu, ou, selon les mots de Prandtl, l'esprit à la nature. Lorsqu'il compose son histoire de la logique en Occident, Prandtl entend donc logique en ce sens très large. Son histoire ne porte donc pas sur la logique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, sur une logique formelle faisant abstraction des contenus sémantiques. Pour Prandtl, comme pour de nombreux philosophes autour de 1850 en Allemagne, la logique est une théorie du raisonnement correct. Avant d'aborder l'histoire de la logique en Occident, il faut encore dire qu'elle est précédée en Allemagne, en France et en Angleterre par des tentatives du même ordre. Boschensky a tort, Prandtl n'est pas le premier à écrire une histoire de la logique. En France, il y a une tentative chez Adolphe Franck et un article d'Émile Littré qui esquisse une histoire de la logique. Mais surtout en Angleterre, Robert Blackie écrit une véritable histoire de la logique de l'Antiquité à son propre temps, donc au XIXe siècle, quelques décennies, enfin une quinzaine d'années plutôt, avant Prandtl. Donc, en fait, Prandtl ignore complètement les travaux français ou anglais, il ne les cite en tout cas pas, et il considère les tentatives allemandes insuffisantes. Je crois que son entreprise doit être inscrite dans le contexte d'un débat qui se conçoit en Allemagne à l'horizon du kantisme et qui entrelace deux trames. D'une part, la question de la légitimité de la méthode historique. D'autre part, la question de la possible conception d'une logique qui soit une science du raisonnement naturel plutôt qu'un pur formalisme. Alors j'en viens à l'histoire de la logique en Occident. Au moment où il travaille à cette somme, qui paraît en quatre volumes entre 1855 et 1870, Prandtl a été suspendu de son enseignement de philosophie à l'université de Munich. Il a été soupçonné de panthéisme en raison de ses positions monistes en épistémologie et en ontologie. et il doit se contenter d'enseigner la philologie et l'histoire. Il ne peut réintégrer son cours de philosophie qu'en 1857, donc après la publication du premier tome, avant d'obtenir l'ordinariat 2 ans plus tard, en 1859. Et puis il fera une assez bonne carrière, puisqu'il finira par être recteur de l'Université de Munich. À partir de 1860, il s'affirme de plus en plus dans une position anti-hegélienne qu'il développe jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, du point de vue méthodologique, Prandtl, je l'ai déjà dit, s'est affilié à l'école historique berlinoise qui programmait une histoire de la pensée philosophique et dont les principaux représentants en philosophie se nommaient alors Friedrich Schleiermacher, Heinrich Ritter ou Friedrich Trendelenburg. Dans les sciences de la culture, par définition historique, la pratique scientifique idéale présupposait, selon ses auteurs, une projection dans le passé du self de l'historien, qui était alors lui-même historicisé, et qui devait être historicisé, puisque le self de l'historien était lui-même une résultante ou un produit de l'histoire. L'historicisation de la subjectivité de l'historien de la philosophie, c'est-à-dire sa relativisation, lui conférait une objectivité certes toujours imparfaite, mais suffisante pour reconnaître aux philosophies du passé leurs critères propres. L'historien de la philosophie évitait ainsi, ou pensait ainsi éviter, de réduire toute pensée historique à un simple cas qui puisse être subsumé à son propre système, ou au pire, y rester complètement étranger, c'est-à-dire un pur non-sens. Dans cette conception historiciste, la première vertu de l'historien de la philosophie, et c'est très important pour Prandtl, est une forme d'impassibilité scientifique ou une forme, si vous voulez, d'indifférence méthodique. En 1852, devant l'Académie des sciences de Munich, Prandtl précise que l'historien de la philosophie ne doit s'étonner ou ne s'effrayer de rien. Et c'est bien dans cet état d'esprit qu'il s'apprête à reconstruire, je le cite, « le terrible fatras d'absurdité qui constitue presque 2000 ans d'histoire de la logique après Aristote en Occident ». En réalité, son parcours débute avant Aristote, avec les Éléates, et il s'achève, dans le quatrième tome, sur les derniers développements des querelles d'école au XVIe siècle, donc avec le Wegestreit. Au début du premier tome, dans les préambules méthodologiques, Prandtl affiche un même indifférentisme méthodologique que devant l'Académie des sciences de Berlin, et il oppose cet indifférentisme à une cohorte d'ennemis fantasmés ou réels, mais qui sont en tout cas tous caractérisés par leur attitude partisane. Alors, parmi les ennemis, il énumère les amoureux du grand style, les idéalistes, les philologues qui adorent les Grecs et les Romains, et les professeurs de logique formelle, avant de conclure. Comme objet de la recherche historique, ce que toutes les nations ont fait ou écrit a absolument la même valeur et doit être traité avec le même dévouement et un soin méthodologique complet. Prandtl n'est pourtant ni naïf ni inconséquent. Il ne s'agit pas de renoncer à tout jugement, encore moins de prétendre à une illusoire impartialité, à une impossible ou même contradictoire objectivité absolue. L'intellectuel de l'école historique reconnaît sa subjectivité et donc sa partialité. L'historien de la philosophie ne peut jamais, selon Prandtl, se dévêtir de ses propres convictions, mais une fois avoué, il faut que ses préférences personnelles soient soumises au même traitement que les autres systèmes, c'est-à-dire à la relativisation historique. Ainsi, Prandtl ne cache pas son goût pour la logique d'Aristote. Il décrit la logique d'Aristote comme la seule entreprise philosophico-scientifique de l'histoire de la logique occidentale à côté de la logique hegélienne. Il n'est pas encore farouchement anti-hegélien à l'époque. Et il y consacre 260 pages donc à la logique d'Aristote, ce qui est assez conséquent sur un ensemble de 2000 pages que constitue l'histoire de la logique. Selon lui, la logique d'Aristote surpasse de très loin celle de tous ses contemporains, mais aussi toutes ses réceptions et toutes ses réélaborations depuis l'Antiquité tardive, réélaborations qui n'aboutirent qu'à la mise au point d'une sorte de dressage scolaire, eine Schuldressur. Ailleurs, Prandtl précise pourtant que Platon et Aristote n'étaient que des Grecs, je le cite. Donc, vous voyez, dans son histoire de la logique aussi, on pourra constater une sorte de dénigrement qui joue une fonction prophylactique. Le dénigrement prévient l'historien contre les dangers de l'enthousiasme et de l'admiration qui parasitent les processus d'objectivation. Pour prendre un exemple parmi vraiment de nombreux autres exemples, Les Grecs de l'Antiquité, qui jouissaient pourtant d'un statut d'exception dans l'historiographie philosophique allemande, sont décrits par Prandtl comme une nation intellectuellement vorace et légère, prompte à forger des théories dans un doctrinarisme frivole et un dogmatisme ingénieux qui ignore tous les aspects secondaires. Par ailleurs, la relativisation historique mise en œuvre par l'historien de la logique ne débouche pas sur un relativisme au sens moderne, puisqu'elle ne renonce pas à tout fondement universel ou à tout transcendantal. Une base anthropologique commune, ein gewisses allgemein menschliches, une acception populaire, eine populäre Annahme, permet en effet de définir provisoirement la logique, au départ de l'enquête, comme une science dont l'objet sont les formes et les lois de la pensée humaine. Le travail scientifique de l'historien consiste alors à relativiser et à pluraliser cette définition en la confrontant aux matériaux culturels et en l'inscrivant dans des référentiels socio-historiques. À cet endroit au moins, mais je pense qu'il y a d'autres places, d'autres endroits dans l'histoire de la logique qui témoignent de la même attitude, Prandtl paraît faire usage de l'histoire pour défendre le caractère impur, ou autrement dit le caractère anthropologiquement immergé de la logique, contre les adeptes du formalisme, qui pensent d'ailleurs que la logique n'a pas d'histoire. Cette histoire de la logique est, à mon avis, aussi une arme contre le formalisme kantien, ou peut-être avant tout une arme contre le formalisme kantien. Dans son introduction méthodologique, Prandtl présente en effet la science historique comme la destruction des illusions dogmatiques. Je le cite, citation un peu plus longue. « Cependant, si on applique une telle procédure, surtout dans le cas d'une discipline comme la logique, pour laquelle on pense volontiers ne devoir admettre qu'un minimum d'influences historiques extérieures sous prétexte qu'elle est éternelle dans sa pureté et son isolement formel, de nombreuses illusions de ce genre se trouvent détruites et la confortable tradition scolaire désagréablement dérangée. » Alors, si l'histoire de la logique en Occident peut légitimement être gardée comme une entreprise polémique, qui aux yeux même de son auteur devait ruiner le dogmatisme philosophique et le formalisme logique, elle n'est bien sûr pas que cela. C'est une somme qui fourmille d'informations érudites sur des auteurs, des textes et des théories qui sont encore aujourd'hui parfois peu connues ou pas connues. Voici par exemple le tableau des derniers auteurs traités dans le quatrième volume. Donc, l'histoire de la logique de Prandtl, je pense, appartient encore à la littérature secondaire aujourd'hui lorsqu'on aborde la logique médiévale. En outre, malgré son titre, elle témoigne d'une conception très large de la logique qui en reconnaît des manifestations et des histoires ailleurs qu'en Occident. Et cela n'est pas banal. Durant les mêmes années, juste après Prandtl, quelques années après Prandtl, Friedrich Überweg produit lui aussi un compendium d'histoire de la logique, mais il refuse aux Orientaux toute logique parce que les Orientaux, selon Überweg, n'ont pas, je le cite, la force intellectuelle qui préside au véritable travail scientifique. Prandtl ne restreint quant à lui son champ d'étude à l'Occident que pour des raisons d'économie du travail scientifique. Au milieu du deuxième tome, alors qu'il aborde l'influence des Arabes et des Byzantins sur la logique en Occident latin, il se dit arrivé à l'endroit où il lui faut enfin justifier le titre de son ouvrage « L'histoire de la logique en Occident ». Il réitère là une division du travail proposée au début du premier tome, lorsqu'il confiait aux orientalistes le soin d'exhumer les sources de logiques orientales encore inconnues des Européens. De plus, son Occident n'est pas un monde culturel pur, dans lequel la philosophie grecque aurait trouvé un terreau naturel où s'implanter, mais le produit de nombreuses hybridations. Prandtl considère et reconstruit donc les doctrines des philosophes arabes dans la mesure où elles ont exercé une influence sur la logique en Occident. Les transferts arabo-latins et byzantino-latins furent si importants, selon lui, qu'aucun historien sérieux ne saurait en négliger l'étude. Et c'est maintenant que j'entre dans le contenu de l'histoire de la logique, où l'on verra en effet l'importance de ces transferts. En effet, dans la trame même que tisse l'histoire de la logique en Occident de Prandtl, se dessine une thèse massive censée expliquer le désastre, le déclin de la logique occidentale qui se serait abîmé dans le formalisme dès le XIIIe siècle. Alors, les coûts scientifiques d'une telle opération historiographique sont relativement élevés. D'une part, Printl prétend corriger la périodisation habituellement admise par l'historiographie philosophique du XIXe siècle. À cette fin, il réactualise d'autre part une vieille hypothèse relative au Summulae Logicales de Pierre d'Espagne, et il défend cette vieille hypothèse qui s'est depuis révélée erronée contre ses confrères philologues, alors même qu'un consensus se formait dans la recherche pour rejeter cette thèse à l'époque de Printl. Alors je commence par le premier point, la périodisation mise en place par Printl. Alors elle est plutôt conformiste pour l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, la logique occidentale serait née du débat grec, du doctrinarisme rhétorique des Grecs chez les sophistes, notamment par l'exercice de la démocratie. Il y a toute une relation, une mise en relation de la logique avec la politique. Puis, elle aurait acquis un statut scientifique avec Aristote. Elle aurait été ensuite transmise par les stoïciens et les péripatéticiens. Et elle aurait été, dès le Haut Moyen-Âge, mise au service d'une logique scolaire. Par contre, Printl propose une périodisation générale du Moyen-Âge qui, selon lui, exige le sacrifice de la Renaissance. Il distingue deux âges au Moyen-Âge, deux périodes, dit-il, dont la seconde antidate la Renaissance au XIIIe siècle. Alors, la première est la période de Boès, durant laquelle la logique se perpétue dans le trivium tout en subissant les pires corruptions de la part des théologiens. Durant cette première période, qui est réaliste, je cite Printl, « Le point culminant de l'imbécilité en logique est atteint par Anselme, qui, dans son Dialogus de Grammatico, pense qu'une même chose vue sous différents aspects puisse appartenir à plusieurs catégories. » Anselme aurait ainsi favorisé ce réalisme lourdeau, Stumpfsinniger Realismus, qui confond les mots avec leur signifié. La seconde période voit apparaître la via moderna en logique et ce basculement dans un nouvel âge qui se produit au XIIIe siècle est provoqué, selon Printl, par trois facteurs quasi simultanés. Les apports byzantins, qui concernent la logique surtout, les traductions des commentaires arabes d'Aristote, qui importent pour la philosophie en général, et les nouvelles traductions d'Aristote à partir du grec, qui participent d'un mouvement de renaissance de l'Antiquité. Dans le troisième volume, qui couvre le XIIIe siècle et le XIVe siècle jusqu'à Occam, Printl se sent en effet obligé de réitérer une évidence, quitte à paraître ridicule, la Renaissance a eu lieu au XIIIe siècle. On ne peut donc assez insister sur le fait que la dénommée Renaissance de l'Antiquité, je cite, « c'est pour une bonne part déjà produite au XIIIe siècle dans la philosophie, les mathématiques et les sciences de la nature, et cela par la connaissance d'Aristote et de la littérature arabe ». Dans le champ restreint de la logique, plus que les Arabes, c'est un apport byzantin qui fut, selon Printl, décisif, celui d'un philosophe du XIe siècle, Michel Psellos. Le second âge de l'histoire de la logique médiévale, qui coïncide donc avec sa renaissance, est en effet dénommé période de Psellos. À cet endroit, Printl annonce une découverte fracassante, fruit d'un voyage dans des terres complètement inconnues, et que la nouveauté fera peut-être paraître invraisemblable. En réalité, la découverte de Printl est une vieille hypothèse admise au XVIe siècle par Kekermann, au XVIIIe siècle par le grand historien de la philosophie de l'Aufklärung, Jakob Brucker, puis après lui par plusieurs autres historiens de la philosophie allemande comme Wilhelm Gottlieb Tennemann. Donc à la suite de cette cohorte d'historiens, Printl adopte en effet la lecture, une très vieille lecture, la lecture du philologue et théologien bavarois Elias Ehinger, qui en 1597 avait édité un compendium logique découvert dans un manuscrit du XVe siècle déposé à la Bayerische Staatsbibliothek de Munich. Ehinger attribuait ce texte, donc une synopsis de la logique d'Aristote, à Michel Psellos, et il précisait que les Summulae Logicales de Pierre d'Espagne en étaient une traduction latine. Au moment où Printl compose son histoire de la logique, plusieurs chercheurs, dont le philologue français Charles Thureau, avait pourtant démontré une dépendance exactement inverse, donc une dépendance non pas des Summulae à la synopsis, mais de la synopsis aux Summulae, dont la synopsis ne serait rien d'autre qu'une traduction grecque produite bien plus tard, au XVe siècle, par Gennadios Scholarios. Alors, Prandtl connaît très bien ces interprétations. Il dédie même des petits traités à leur réfutation. Mais, si vous voulez, tout son scénario, les quatre volumes de l'histoire de la logique, repose sur l'attribution de la synopsis à Pselos, vous verrez pourquoi. Donc, il ne peut pas entrer dans la nouvelle voie ouverte par les philologues, dont, notamment Charles Thirault, mais d'autres, des philologues anglais aussi, qui défendent la même thèse au même moment. Selon Prandtl, les sous-moulets de Pierre d'Espagne constituent l'événement majeur de l'histoire de la logique occidentale. Il le précise le 2 juillet 1864 devant l'Académie des sciences de Munich. Alors pourquoi ? En faisant passer en Occident l'absurde formalisme byzantin, Pierre d'Espagne a définitivement fait perdre toute fondation réelle à la logique scolastique occidentale, selon Prandtl. La logique terministe, telle qu'elle est exposée dans les traités De proprietatibus terminorum, puis telle qu'elle est mise au point par Occam, réalise, selon Prandtl, une absurde fusion entre grammaire et logique qui détache paradoxalement la logique des usages réels de la langue. Donc il y a une sorte d'opposition de la grammaire à la linguistique. Le verdict que Prandtl prononce au début du troisième tome sous forme d'annonce est sans appel. Mais ce qui suit va montrer ce que personne encore ne savait ou ne présumait. Ce non-sens byzantin s'est profondément ramifié dans les différentes parties logiques et donc dans la dite philosophie de ce temps. Depuis Occam et ses partisans, la connaissance du matériel byzantin est la seule clé qui permette de résoudre l'incompréhensibilité bien souvent déplorée de nombreux écrits et passages particuliers. Alors, pourquoi fait-il cela ? C'est assez intéressant, de la part d'un philologue, hein, il a vraiment une formation de philologue d'abord. En fait, l'argumentation de Prandtl joue l'histoire de la philosophie contre la philologie. Selon Prandtl, les thèses philosophiques ne s'expliquent pas par génération spontanée, mais archéologiquement. Les thèses philosophiques résultent de séquences de transmissions conceptuelles et de questionnaires philosophiques. Elles n'apparaissent pas comme des propriétés émergentes de la discussion, ici ou là, par hasard. Or, seul un apport étranger permet d'expliquer la soudaine accélération du déclin de la logique occidentale dans un formalisme vide au XIIIe siècle, dans les consequentiae, les obligatoria et les insolubilia, selon le scénario de Prandtl. Guillaume Chasgood, Lambert d'Auxerre et Pierre d'Espagne ont hérité de la logique de Michel Pselos et l'ont retravaillée, adaptée au terrain latin, en précipitant ainsi la logique latine à sa perte. Le dernier tome de l'histoire de la logique en Occident, qui paraît en 1870 et qui va de l'occamisme au Wegestreit du XVIe siècle, a de fait les apparences d'un cabinet des horreurs. Dans la préface et dans la conclusion, l'historien de la logique ne peut assez souligner la peine et la souffrance que lui a coûté son travail. Sa seule excuse est humaniste, éviter à autrui un tel labeur. Donc, le résultat de 20 années d'enquête et d'écriture va être formulé comme un congé définitif à l'histoire de la logique en Occident, et de la manière qui suit. Donc c'est un extrait de la préface du quatrième tome. Certes, tout un chacun sent bien qu'au moins 9/10 de tout ce qui est présenté ici repose purement et simplement sur une intuition dénuée de valeur et même naïve. Donc le non-sens byzantin. Cependant, la recherche historique ne devait pas s'épargner d'enquêter plus en détail sur une telle période et de fournir ainsi un fondement quasi irréfutable au jugement justifié que toute personne impartiale doit prononcer au sujet de la scolastique médiévale, le rejet. Alors, je finirai avec trois mots sur la figure intellectuelle de Prandtl. En réalité, Prandtl était un philosophe optimiste. En 1879, il est élu recteur de l'Université de Munich et à cette occasion, il adresse aux étudiants un discours intitulé « De la justification de l'optimisme ». Dans ce texte, qui accompagne donc sa prise de fonction, il combat un pessimisme philosophique alors à la mode, qui se réclamait de la philosophie d'Arthur Schopenhauer et de la pensée d'Edward von Hartmann, une pensée orientée sur l'inconscient. La confiance en la raison, la confiance en la valeur du travail devait, selon le nouveau recteur, faire obstacle à la tentation du pessimisme. Mais Prandtl, et cela va exactement dans le même sens, à mon avis, était avant tout un historien de la philosophie, que l'affiliation à la méthode historique avait paradoxalement libéré d'un habitus très répandu dans l'érudition du XIXe siècle, celui de l'admiration du passé. Et ça explique aussi sa guerre contre les philologues, ces philologues qui admirent les Grecs et les Romains. Son récit de l'histoire de la logique occidentale est certes dysphorique, mais il n'est pas pessimiste. Alors qu'il construisait à grands frais scientifiques son récit très orienté et qu'il proférait des jugements souvent radicaux et violents, Prandtl croyait aux puissances de la raison, dans le périmètre desquelles il situait la force libératrice du travail de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive dans l'historicisme allemand à cette situation paradoxale qui veut qu'il faut être historien de la philosophie pour ne plus admirer le passé et l'histoire. Je vous remercie. Thank you.